France Musique.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Confiné mais relax, une émission faite à la maison devant ma bibliothèque dans laquelle j'ai pris aujourd'hui un livre qui va nous permettre de découvrir peut-être un chef d'orchestre absolument formidable, Point d'orgue par Igor Markevitch.
Thank you.
L'ouverture de Rouslan et Ludmila de Mikhail Glinka, dont il sera question d'ailleurs dans quelques minutes, c'était Igor Markevitch à la tête de l'orchestre des concerts L'Amoureux. Point d'orgue, voici donc le titre de ce livre paru chez Julliard en 1959. Il est signé donc du chef d'orchestre Igor Markevitch. Ce sont en réalité des entretiens avec Claude Rostand. Alors, deux noms à préciser. D'abord celui d'Igor Markevitch, ce grand chef d'orchestre né à Kiev en 1912, qui fit l'essentiel de sa carrière en Italie et puis en France. Il se définissait d'ailleurs lui-même au croisement de ces nations et de bien d'autres d'ailleurs, grand voyageur, grand curieux également, homme de rencontre et on va le voir tout au long de cette émission, immense intelligence. Il apparaît en effet, Markevitch, plein d'esprit et de finesse. Il est interviewé donc par quelqu'un qui n'est pas mal non plus, Claude Rostand, rien à voir avec Edmond. Claude, c'est le musicologue et critique, auteur d'ouvrages sur Poulenc, Forêt et donc de ses entretiens avec Igor Markevitch, avec dedans à la fois quelques généralités sur la direction d'orchestre et beaucoup de souvenirs. On va commencer d'ailleurs sur ces souvenirs. Mais auparavant, réentendre Igor Markevitch pour vous montrer toute la diversité des capacités de ce chef ici dans la musique de Franz Schubert.
Thank you.
Cette fois, face à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Igor Markievicz dirigeait le final de la 4e symphonie, final très enlevé pour une symphonie dite malgré tout tragique de Franz Schubert. Dans ses entretiens, Igor Markievicz évoque bien évidemment ses ascendants, en particulier cet arrière-grand-père qui était le premier à écrire une histoire de l'Ukraine, considérée comme une nation propre, mais il parle surtout de sa famille et des rapports qu'elle entretenait déjà bien avant lui avec la musique. Je le cite. C'était une famille de cette noblesse qui a été si souvent décrite par Tolstoï, Turgenev ou Gogol avec gentillesse ou ironie, et dont beaucoup de représentants sont aujourd'hui chauffeurs de taxi, patrons de restaurants russes, quand ce n'est pas chef d'orchestre. J'imagine qu'ils devaient être assez provinciaux dans leur goût, mais je sais qu'ils cultivaient la musique depuis longtemps. Un de mes ancêtres directs encourageait beaucoup les arts. C'est ainsi qu'il invita dans l'une de nos propriétés le jeune Mikhail Glinka, alors que ce dernier composait « La vie pour le tsar ». Je crois que c'est le second acte de cette œuvre qui fut écrit chez nous. Il y a bien des raisons d'en être fier, car vous ne l'ignorez pas, « La vie pour le tsar » est l'œuvre grâce à laquelle le génie musical russe a pris conscience de lui-même. La valse des fleurs, extrait de Casse-noisette de Tchaïkovski, Igor Markevitch à la tête de l'orchestre Philharmonia.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Côté souvenirs, Igor Markevitch nous raconte évidemment la façon dont lui et sa famille sont arrivés en Suisse d'abord, à Paris ensuite, la manière dont il a rencontré Alfred Cortot par exemple, qu'il a bien protégé, et puis aussi l'enseignement de Nadia Boulanger, dont il fut très proche et dont il nous dit, au présent, parce qu'en 1959 elle est encore vivante, Nadia a un tel don de l'enseignement, une science de l'art si communicative qu'on a l'impression qu'elle donnerait, si elle le voulait, du talent au dernier des imbéciles. Elle a toujours pensé que plus une personnalité est forte, plus elle a besoin de discipline. Avec moi, elle était d'autant plus sévère que j'étais très exubérant. Pourtant, je n'ai jamais eu l'impression que cela ait brimé quoi que ce soit dans ma nature musicale. J'ai remarqué plus tard avec mes propres élèves que ceux qui ont peur pour leur personnalité sont généralement des médiocres, aucune en ont guère. Les vraies natures savent se plier aux disciplines les plus dures. Je pense par exemple au jeune Wolfgang Zabalisch, qui est aujourd'hui l'un de mes élèves les plus applaudis. Eh bien, c'est peut-être celui qui s'est plié avec le plus de modestie et de docilité aux exercices les plus insupportables. Je ne l'ai jamais entendu rouspéter.
Thank you.
Igor Markevitch et l'orchestre des concerts L'Amoureux dans l'ouverture de Fidelio de Beethoven. Dans ses entretiens avec Claude Rostand, Igor Markevitch trace le portrait d'un grand nombre de personnalités. Il faut dire, il en a rencontré des flamboyantes. Voici par exemple celui de portrait qu'il nous donne de Serge Diaghilev, le fameux et flamboyant impresario créateur des ballets russes. Diaghilev paraissait d'une dimension plus grande que les autres êtres humains. C'était une sorte de Gulliver, vêtu à l'ancienne mode, avec une recherche surannée. Ses cannes, ses cache-colles, ses hautes formes, ses monocles et ses binocles sont restés fameux. Il tenait du pachyderme et du paquebot, et voguait noblement dans un sillage de parfums et de sel de bain. Sa politesse aussi était d'une autre époque, et ne l'empêchait pas d'être parfois ironique ou cassant, voire impitoyable. Le génie de Diaghilev était de découvrir. Ce fut l'un des plus grands agents provocateurs de l'histoire. Il provoquait le talent, il provoquait le génie. La voix de Galina Vishnevskaya, à la baguette Igor Markevitch, l'Orchestre symphonique d'État de Russie, dans cette nuit, extrait des mélodies de Modeste Moussorgski.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Parmi les personnalités qui ont vraiment marqué Igor Markevitch, il en est une qui est vraiment chère à son cœur et qu'il cite de très nombreuses fois, c'est le chef d'orchestre Hermann Scherchen. Il dit à son sujet « Scherchen est vraiment un professeur étrange. Je l'ai suivi pendant plusieurs mois. Il lui arrivait de me réveiller à 2h du matin pour me dire qu'il se sentait en veine de m'instruire. D'autres fois, je restais plusieurs jours sans pouvoir l'approcher plus de 5 minutes, pendant lesquelles il me recommandait d'étudier Nietzsche ou le communisme. Je le considère quand même comme un des plus grands pionniers de la technique de direction. » Hermann Scherchen est un semeur. Tout son caractère est du reste comme ça. Je crois qu'il s'est marié une demi-douzaine de fois, ce qui est une autre manière de jeter sa graine à tous les vents. J'ai vu Scherchen créer des orchestres, des maisons d'édition, des clubs de philosophie, des partis politiques, des écoles de direction, des laboratoires électroniques. Il faut des hommes pour découvrir, d'autres pour explorer, d'autres pour défricher.
Thank you.
Le presto de la 38e symphonie dite Prague de Mozart, c'était l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Igor Markevitch. Je vous rappelle que nous lisons aujourd'hui dans confiné-mais-relax.org les entretiens d'Igor Markevitch avec Claude Rostand, entretiens lors desquels il évoque tous les chefs d'orchestre qui ont pu aussi le marquer. On parlait tout à l'heure d'Hermann Scherchen. Eh bien, voici deux autres. Igor Markevitch nous dit, je le cite, « J'ai admiré Toscanini, mais j'ai aimé Furtwängler. » Pour bien comprendre l'apport de ce dernier, il faut avoir parlé avec les musiciens du Philharmonique de Berlin juste après sa mort. Je fus, par le hasard des circonstances, le premier à les diriger après cet événement. Il parlait de Furtwängler comme d'un père et comme d'un être dont la science les avait élevés au-dessus d'eux-mêmes. Son sens du style était si direct qu'il l'avait rendu clair aux esprits les plus simples parmi ses musiciens. Ceci lui permettait de trouver une sorte de respiration naturelle de la musique qui était souveraine et qui rendait les musiciens heureux de jouer sous sa direction. Il y a une très grande indication dans ceci et qui doit rester l'un des buts du chef futur. C'est ce que j'appellerais l'art de créer une spontanéité collective.
Thank you.
Un extrait de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach, orchestration d'Igor Markevitch, puisqu'il était non seulement orchestrateur, mais compositeur lui-même, ici face à l'Orchestre National de la RTF.
Relax. Lionel Esparza, France Musique.
Dans ses entretiens, Igor Markevitch nous parle d'un élément absolument fondamental pour le musicien et pourtant rarement évoqué, c'est l'oreille. Personnellement, je crois avoir toujours eu l'oreille fine. Quand j'étais élève chez Nadia Boulanger, elle nous faisait faire des exercices de dissociation tellement difficiles que je suis presque surpris aujourd'hui que nous y soyons parvenus. Elle nous jouait par exemple un contrepoint à 8 voix d'une 15aine de mesures et nous demandait, après une seule audition, de lui rechanter l'une des voix, la 4e ou la 6e. Eh bien, nous y parvenions. Cette finesse de l'oreille, elle m'est restée. Dans certaines périodes où je suis particulièrement entraîné, par exemple par un travail quotidien d'enregistrement, le moindre bruit de la vie journalière, le bruit de la vie qui m'entoure, prend un tel relief et se multiplie d'une telle manière pour moi que c'en est presque insupportable. Je suis couché dans mon hôtel et j'entends le nombre d'autos qui passent dans la rue. Et je me dis tout en travaillant, tiens, une américaine, tiens, une déesse. J'espère que vous me plaignez. C'est la contrepartie d'un contact merveilleux avec les choses, la difficulté de s'absenter.
Thank you.
Joseph Haydn, le final de l'horloge 101e symphonie par l'Orchestre national de la RTF, Igor Markevitch. Au fil de ses entretiens, le chef fait montre parfois d'un esprit pour le moins percutant et affûté. Je le cite. Il n'y a presque rien aujourd'hui qui ressemble au snobisme dont vivait par exemple un Diaghilev. Le snobisme mondain n'existe presque plus pour la simple raison qu'il n'y a plus de monde et que les clans sociaux, si fermés autrefois, se mélangent de plus en plus. Ainsi s'effacent les coteries et les castes. Quant au snobisme artistique ou littéraire, il disparaît pour la simple raison que le succès, aujourd'hui, se mesure au nombre. Pour avoir du succès, il faut tout simplement avoir un très gros tirage. Pourtant, le snobisme avait une grande qualité, c'est que, tout en étant aveugle, il a toujours eu du discernement. C'est pourquoi on regrettera peut-être le levain qu'il représentait, et on devra trouver un jour quelque chose pour le remplacer. L'orchestre symphonique du RIAS de Berlin, dirigé par Igor Markevitch, dans un extrait de la 5e symphonie d'Arthur Honegger. Allez, un dernier mot du chef d'orchestre à propos justement de son instrument. Enfin, est-ce bien le sien ? Il y a beaucoup à dire sur cette extraordinaire petite société qu'est un orchestre. Je serais presque tenté de commencer par le réveil matin. Combien de fois n'ai-je pas pensé avec une sorte d'étonnement à tous ces musiciens qui se lèvent en même temps que moi pour aller à la répétition ? Chacun a sa vie, ses soucis. L'un embrasse affectueusement sa femme, l'autre est de mauvaise humeur, d'autres encore une voiture qui ne démarre pas, une petite fille malade, des commissions à faire. Enfin, les voilà tous assis sur le plateau où doit avoir lieu la répétition, et celle-ci commence. Soudain, par un étrange miracle, ils deviennent cor, flûte, hautbois, clarinette, violoncelle. Dans notre cas, cette identification avec un instrument implique l'identification avec une pensée supérieure, celle du compositeur que nous allons jouer. Cette pensée supérieure va unir l'effort de tous ces hommes, et le rôle principal du chef sera précisément d'être celui qui les unit. Mais si l'orchestre représente presque le symbole d'une société idéale, c'est parce que chacun accepte une chose fondamentale, la nature particulière de sa vocation. Un extrait des Jeux d'enfants de Georges Bizet par Igor Markevitch et l'orchestre des concerts Lamoureux. Nous lisions aujourd'hui Point d'orgue, entretien de Claude Rostand avec le chef d'orchestre Igor Markevitch, livre paru chez Julliard en 1959. Ainsi s'achève ce confiné mais relax. Un grand merci à Flora Sternadel et Adrien Roch. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et vous retrouve lundi pour un nouveau relax. Il est 16h sur France Musique. Voici Marcel Kiyeveré.
À réécouter sur francemusique.fr.